La question de Michael.
C'était par rapport à la mitzvah de Abtal Rechakamocha, on doit aimer son prochain comme soi-même. Comment on fait pour se travailler quand on a du mal à. Quand on a du mal avec une personne au niveau de son comportement, ou à tel point que ça va, des fois ça devient physique, ça veut dire on est en face de la personne et c'est qu'on a du mal à s'arranger avec cette personne-là. Comment on fait? C'est un sentiment qui vient très vite, qui vient dans la tête et qui répulse. Comment on fait pour se travailler là-dessus?
Tu parles d'une personne qui te fait du mal ou une personne que tu vois pas pour la première fois?
Non, mais pas la première fois, c'est son comportement.
Son comportement. Bon.
Peut-être, comme on dit dans le jargon, une tête qui ne revient pas.
Dans le jargon, une tête qui ne revient pas. Ok, alors, c'est une très bonne question. Rabbi Akiva a dit, « Vavta l'echa kamocha ze klal gadol ba Torah. » Aimer son prochain comme soi-même, c'est la loi générale de toute la Torah. Que Hillel Hazaken, donc Hillel vivait avant Rabbi Akiva, mais il traduit les paroles de la Torah. Gemara raconte dans Shabbat qu'un jour un non-juif voulait se convertir, mais il voulait, il lui a dit convertis-moi, tu vois, Bet Shamay, tu vois, Shamay Hazaken. Il lui a dit convertis-moi le temps que je me tiens sur un pied. Regardez, j'ai pas le temps moi, d'apprendre tous ces trucs-là, je veux un truc rapide, clic-clac, tu m'enseignes la Torah. En combien je tombe sur. Je peux tenir 5 minutes sur un pied, en 5 minutes. Enfin, vraiment un truc hyper rapide. Shamaï, l'envoyer balader. Allez, dégage. Qu'est-ce que tu veux? Ou t'apprends comme il faut, tu fais tes devoirs ou non. Tes devoirs à Hillel. Hillel lui a dit, ouais, j'ai aucun problème. Ne fais pas à ton prochain ce que tu voudrais qu'on te fasse. Tout le reste n'est que commentaire. C'est-à-dire, la Torah, c'est ne pas faire à son prochain le mal que je ne voudrais pas qu'on me fasse. Ça veut dire, en d'autres mots, aimer son prochain comme soi-même. Et le reste, toute la Torah n'est que commentaire. Parce que si je veux pouvoir faire le bien autour de moi, et ne pas faire le mal, alors il faut bien sûr que je me sanctifie. Et là, je vais expliquer. Tout le reste n'est que commentaire. Pourquoi? Où est le rapport entre Shabbat, faire Shabbat, ne pas toucher de l'argent Shabbat, ne pas allumer la lumière Shabbat, ne pas porter à l'extérieur Shabbat dans les pays où on ne peut pas, et aimer son prochain comme soi-même? Ou le rapport entre Kashroute, aimer son prochain comme soi-même? Où est le rapport entre le Tahara, les lois de pureté familiale, et etc., etc. Donc on voit d'après elle qu'il y a un rapport. Il y a un rapport. On va y répondre dans quelques minutes. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que c'est non seulement la base de la Torah, mais c'est peut-être la raison de toutes nos souffrances. On avait deux temples, les deux ont été détruits. Le premier était détruit à cause de l'assassinat, l'adultère et l'idolâtrie. Le deuxième était détruit à cause de Sidantrinam, la haine gratuite. C'est ce dont tu parles. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un et sa tête, ça ne revient pas. C'est pas qu'il t'a rien fait. Mais tu l'aimes pas et c'est même doux de dire que tu l'aimes pas. Franchement, il casse les pieds royalement. Et tu vois, il marche et tout, paf, il reçoit un coup comme ça par la table. Tu souris, t'es un peu heureux qu'une tuile lui tombe sur la tête. Ça s'appelle Sinat Hinam, ça s'appelle la haine gratuite. C'est un lave de Horaïta, c'est une interdiction de la Torah. Lotisna et achicha bilvabecha. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Comme manger du porc. Plus que ça concerne son prochain, c'est l'essentiel de la Torah. Ne pas haïr son prochain dans son cœur. Alors il y a des gdarim, il y a des lois qui concernent cette ordonnance qu'on va aussi étudier avec l'aide de Dieu. La Gemara pose la question, quel est le péché le plus grave? Les raisons qui ont provoqué la destruction du premier temple, assassinat, idolâtrie, adultère, quand on dit adultère c'est toute interdiction sexuelle, la débauche sexuelle, ou la haine gratuite? Répond la Gemara, regarde quel temple a été reconstruit, lequel n'a pas été reconstruit. Le premier a été reconstruit après 70 ans, et le deuxième temple. Le deuxième a été détruit en 70 de l'ère chrétienne, et il est très bientôt reconstruit, mais ça fait quand même bientôt 2000 ans qu'il n'a pas été reconstruit. C'est une victoire de quelques semaines, Bézart Hachem, mais avec l'aide de Dieu, d'accord? Alors justement, la réparation de ce péché. Il est impossible que le temple soit reconstruit tant qu'Israël ne répare pas le péché de haine gratuite. Donc ce qu'il faut faire maintenant à la place, c'est de l'amour gratuit. Beaucoup, beaucoup d'amour, se travailler pour ne pas avoir la haine, ou les souffrances que Bnei Israël ont hélas beaucoup, beaucoup eues durant tout l'exil, et qui certainement ont réparé beaucoup de ce péché terrible. Alors, quelle est la technique? La technique pour arriver à aimer l'autre. Il faut savoir que aimer l'autre, aime ton prochain comme toi-même, c'est vrai que c'est marqué dans la Torah, mais aujourd'hui ça a été importé, exporté dans le monde entier, je veux dire. Nous on l'a exporté et tout le monde l'a importé. Ça veut dire. N'importe quelle religion dit cela. Je vous dis qu'il faut qu'il y ait l'amour entre les gens. Ça peut être tous les mouvements un peu hippies, Beatles, peace and love. Peace and love, c'est ce qu'on aime, la paix, l'amour, d'accord. Tous les chrétiens qui disent aime ton prochain comme toi-même aussi, j'imagine dans une certaine mesure, je ne sais pas si c'est dans la même terminologie, mais ils le disent très clairement. J'imagine que l'islam dit la même chose aussi. Toutes les religions, je ne connais pas de religion qui se veut vraie, qui est pour la haine. Ou si des fois il y aura la haine, ça sera vers les personnes étrangères à notre ethnie, à notre groupe. Hein, les nazis sont peut-être des gens qui ont la haine contre beaucoup de gens, mais entre nazis, on a la camaraderie allemande. Il y a aussi. Tout le monde le dit, mais personne ne le fait. Et que tu regardes tous les mouvements qui ont prôné la paix dans le monde, plus ils ont créé la paix, plus ils ont été les auteurs de grands génocides. L'histoire de la chrétienté est peut-être la plus éloquente à ce niveau, que c'est qu'au nom de la civilisation, au nom d'aller christianiser, ils ont fait les pires horreurs qu'il puisse y avoir de l'histoire. Et ainsi, tous les grands mouvements qui ont voulu prôner l'amour et la paix, d'habitude, ça a terminé par un totalitarisme terrible. D'ailleurs, t'es pas d'accord avec moi, je te tue avec des tortures terribles. Et il est évident que les auteurs de ces religions voulaient la paix, voulaient l'amour. Je ne pense pas que c'était des grands menteurs. Alors pourquoi ils n'ont pas réussi? Est-ce que l'on a réussi? Je ne sais pas si on a réussi. En tout cas, au niveau des génocides que nous avons perpétrés, dans les 3000 dernières années, on ne connaît pas de génocide perpétré par les juifs. Au contraire, nous avons été la victime des génocides des autres. D'accord? Leur amour s'est déversé sur nous avec fureur. Leur amour, entre guillemets, Kamouvan. Au niveau des résultats sur 3000 ans, on est bien plus haut que les autres. Alors, quel est le secret? Le secret, ce qu'il a dit, Hillel. Il dit tout le reste n'est que commentaires. Ça veut dire que si tu n'as pas les commentaires, la technique qui te permet d'aimer, de ne pas faire ton prochain ce que tu voudrais qu'il te fasse, sans commentaires, ça ne marche pas. Le commentaire est le suivant. On est formé de deux parties. Une partie qui est animale, une partie qui est divine. La partie divine, elle aime. Elle aime. Elle est miséricordieuse. Elle a la compassion, elle a l'amour des gens, elle aime donner, elle est altruiste. Partie animale, exactement le contraire. Elle est égoïste, coléreuse, orgueilleuse, cruelle. Cruelle. La cruauté pour la cruauté. Il est impossible d'arriver à long terme, pour une société entière, à la paix et à l'amour l'un envers l'autre, si les personnes ne vont pas affiner les parties animales qu'ils ont en eux. Si on ne va pas les purifier. Or, une purification des parties animales de l'être n'est possible que par les 613 mitzvot de la Torah. En tout cas pour les juifs, pour les non-juifs, ce sera les 7 mitzvot noachid. Quand quelqu'un fait Shabbat, il amène sur lui un flux divin qui renforce les parties divines en lui et qui affaiblit les parties animales. C'est marqué à propos de la cacheroute. C'est marqué, vous ne mangez pas ces aliments, venitmetem bam, venitmetem, vous vous impurifiez. Mais dans le mot nitmetem, on doit mettre un aleph. Dans la Torah, c'est marqué sans le aleph. On peut lire autrement, venitam tembam. Vous deviendrez idiot. Alors le fait que quelqu'un mange un aliment non kasher, au niveau corporel physique, il n'y a aucun interdit. Il faut comprendre, il n'y a rien de mal là-dedans, au niveau physique. Les gens croient que la kashrout sont des raisons d'hygiène alimentaire. C'est une bêtise sans nom. D'abord, le Talmud dit très clairement dans Yerushalmi, il dit pas que le porc n'est pas bon, il est très bon. Mais Dieu l'interdit. Ce n'est pas au niveau physique, c'est au niveau métaphysique. Dieu interdit. Preuve en est, des gens me disent, oui, on a découvert dernièrement que le mélange entre lait et la viande, c'est dur à digérer. Ah, d'abord, si c'est dur à digérer, on est interdit de manger des graisses, on est interdit de manger des tas de trucs qui sont durs à digérer. Deuxièmement, preuve catégorique comme quoi c'est des bêtises, c'est que la Torah t'interdit, même pas la Torah, c'est un essor de Rabbanan, d'accord, est interdit de manger de la viande et après consommer du lait. Mais le contraire, tu peux boire un verre de lait, tracer un peu la bouche avec de l'eau et directement manger un bon steak. C'est permis. Or, dans l'estomac, il se mélange tout aussi bien. C'est pas parce que j'ai mangé le steak, bu le verre de lait un peu avant le steak, il va pas se mélanger. Ils vont se mélanger tous. Et ça, c'est totalement permis. Qu'est-ce que tu me racontes dans les histoires, hein, que c'est pour des conditions physiques. Et encore une autre preuve catégorique. Un animal qui n'est pas égorgé comme il se doit est appelé Nevela. Nevela. C'est interdit, au même titre que le porc. Quand il est égorgé comme il se doit, il est cachère. Maintenant, c'est quoi égorger? Il faut que l'abatteur rituel, il égorge sans s'arrêter, comme ça il égorge. Il doit couper la majorité pour les poulets de ou la trachée ou l'œsophage. La trachée par laquelle on respire, l'œsophage par lequel on mange. Deux tuyaux. Pour la volaille, il faut couper un de ces tuyaux, la majorité. Pour tous les animaux qui ne sont pas volailles, c'est-à-dire le menu bovin, les chèvres, les moutons, etc., et le gros bovin, les vaches et les bœufs, il faut égorger les deux tuyaux dans leur majorité. C'est combien la majorité? 50%, virgule, 0,0000001. Et c'est quoi, pas la majorité? 50%, virgule, 0,0000000. Le 50%, virgule, 0, il est taref, interdit de consommation, même titre que le porc. 50%, virgule, 0,0001, il est cachère, au même titre que la viande la plus cachère au monde. Quelle différence, messieurs les scientifiques, au niveau physique, entre au niveau physique, d'accord, mais c'est pas bien physiquement, ça fait du mal au corps, c'est des raisons d'hygiène alimentaire. Tu peux t'expliquer, qu'est-ce qu'il y a de différence comme au niveau de l'hygiène alimentaire entre un animal qu'on a égorgé 50% de sa trachée et œsophage et entre 50,0001, il n'y a absolument, strictement aucune différence. Donc on arrête de nous embêter avec ces histoires de bêtises, d'accord, que la cachose sont des raisons de santé. C'est un canular. Toutes les raisons de la Torah, toutes, absolument toutes, ne concernent que l'âme. Il y a une physique qui est les lois physiques du corps et ça n'a pas besoin de Torah. T'as la médecine, la chimie, la biologie, etc. T'as des lois qui sont les lois métaphysiques de l'âme. On a une âme. Nous sommes, je dirais plus, nous sommes une âme et on a un corps. Alors, quelles sont les lois de l'âme? Point d'interrogation, les gens ne savent pas. La psychologie a commencé un tout petit peu à en parler. Psychologie, d'accord? Logie, logos, ça vient de la science de psyché. Du psyché, c'est de l'âme. Science de l'âme. Mais chaque 20 ans, il y a de nouvelles théories qui sortent. T'as Jung, t'as Adler, t'as Freud, la première, topic, deuxième topic, chacun. Ok, on a, je dis pas que c'est faux, mais ils y vont à tâtons. Qu'est-ce qu'ils connaissent de l'âme? Rien de rien. À quel jour, le créateur du monde nous donne une Torah, on peut prouver par A plus B, qu'elle est vraie, c'est pas un problème, qui nous va nous donner toutes les lois de l'âme. T'as l'âme juive, t'as l'âme non-juive, t'as l'âme d'une femme, t'as l'âme d'un homme, t'as l'âme d'un Cohen, t'as l'âme d'un Lévi, ce sont tous des statuts différents, ce sont des lois différentes. Les lois de l'âme. Quand quelqu'un va respecter ces lois de l'âme, qu'est-ce qui se passe? Il amène sur lui un flux de lumière divine, de sainteté, qui va affaiblir les pulsions animales. De façon animale, je ne peux pas aimer l'autre. Lui et moi, c'est moi d'abord. Fais l'expérience extraordinaire. T'as une petite gourmandise comme ça. Tu vas acheter un chocolat suisse, cachère, très bon. Tu vas dans ta chambre tout seul, tu fermes la porte, tu ouvres ton chocolat, et tout à coup, tac, ton copain de chambre qui rentre. Oh, Oh, un chocolat suisse. Qu'est-ce qui se passe? Le corps dit oui, écoute. Alors, c'est vrai ce que tu dis. En toi, tu as un conflit entre lui donner l'âme qui te dit, c'est même pas l'âme, c'était gêné, d'accord? Si c'est un homme qui est très très bon, tu dis, mais bien sûr, je donne la moitié de mon chocolat à mon copain de chambre, c'est la moindre des choses. Comment j'ose manger un chocolat tout seul? Alors, c'est déjà le niveau du Hafetz Chaim, ça, on parle de hyper gros tzadikim. Mais même au niveau de la gêne, tu es gêné et tu as une partie en toi qui dit, non mais quand même. Non mais quand même, 6 cm de papille gustative pour 3 secondes un peu doux, la bagarre terrible qui se passe entre l'acte de donner qui est un acte de l'âme, qui est éternel, qui est divin, qui a une portée pour toujours, et l'acte animal de l'échouiller un peu de doux. Alors il est vrai, ce que dit Raphaël avec justesse, c'est qu'il y a Maïmonide cite 24 choses à propos desquelles il y a une promesse comme quoi celui qui transgresse ces choses-là, il lui est très très dur de faire tchouva. Parce qu'on l'empêche de faire tchouva. Ce n'est pas un empêchement total, mais c'est presque impossible, c'est très dur. Parmi ces choses-là, il y a celui qui transgresse un interdit des rabbanan qu'on appelle avak gezel, poussière de vol, ha ochel misouda shayla mesabek le baaler, celui qui mange d'un repas qui ne suffit pas à son propriétaire. La yeshiva, le jeudi soir, donne à manger des falafels absolument immangeables. Moi, je ne peux pas manger ça, je vais m'acheter une pizza. Une pizza qui suffit à moi. C'est-à-dire que je sais que si je mange cette pizza, je suis rassasié. Moins que la pizza, un peu moins, je ne suis pas rassasié. Je mange ma pizza, rentre mon voisin de chambre qui dit « Oh, la belle pizza !» Je lui dis « Tu veux un peu ?» Il n'a pas le droit de prendre. Il me dit non. Je dis, mais non, vas-y, prends-le. Je n'ai pas le droit de prendre cette pizza. Pourquoi? Parce que je sais pertinemment que la personne me donne cette pizza parce qu'il est gêné. Et en fait, cette pizza, c'est exactement son repas qui lui suffit. On n'a pas le droit de prendre quelque chose du repas de quelqu'un, même si c'est lui qui me propose, je ne lui ai rien demandé, si son repas ne lui suffit pas. Ça suffit si je ne prends pas. Ça ne suffit pas si je prends. Ça s'appelle Avak Gezel, poussière de vol. Tu me dis, mais c'est lui qui me propose, je n'ai rien dit. Je n'ai rien demandé. Il insiste. Interdit. Mais le cas dont je parle, mon cher ami, ce n'est pas la pizza qui est pour ton repas. Tu as mangé, tu as bien mangé. Simplement maintenant, tu es une petite gourmandise, le chocolat. Je ne sais pas, il faudrait vérifier. Ça passe dans le cadre de cela, oui ou non. En tout cas, ce que je voulais maintenant évoquer, c'était, et on a des millions d'exemples de ce type-là, où il y a une confrontation entre l'âme qui veut donner et le corps qui est égoïste. Quelqu'un qui est dans la kdoucha, quelqu'un qui est branché avec Dieu, quelqu'un qui a affiné ses mauvais traits de caractère, plus facilement il comprend que la gourmandise c'est quelque chose d'extrêmement bas. Le Chazonish, il appelle cela « avi avot atouma ». En touma, dans les lois d'impureté, il y a différents degrés. Tu as le père de l'impureté, après tu as 4 degrés de fils d'impureté, et tu as le père du père. Le père du père, c'est le mort lui-même. Un mort, c'est le père du père de l'impureté. C'est une chose qui est le plus haut niveau. Raisonner, je parle au niveau du moussard, au niveau théorique, pas au niveau des lois de pureté et d'impureté, vraiment au niveau de travail sur soi, que l'envie de la nourriture, c'est avi abotatouma, le père du père de l'impureté. C'est très très bas, très très bas. C'est une fonction nutritionnelle animale primaire. Mais quelqu'un qui ne sait pas travailler, c'est important, il peut se mettre en colère. Il rentre à la maison, sa femme lui a fait à manger, elle a oublié de mettre du poivre dans le couscous. Ça fait la 20e fois, 100e fois que je t'ai dit de me mettre du poivre dans le couscous. Il est marabout ce type-là. On va dire mieux. Elle met toujours du poivre dans le couscous, mais ça fait une semaine qu'il n'y a plus de poivre à la maison. Et tous les soirs, elle revient, il demande du poivre, il n'y a pas de poivre. Ah, j'ai oublié d'acheter le poivre. Au bout d'une semaine, il s'énerve. Comment t'as oublié, encore une fois, de respecter les devoirs, les nécessités élémentaires de mes papilles gustatives, un peu de poivre dans le couscous. Les nerfs, c'est animal. Comment quelqu'un maîtrise ses nerfs? Pour ça, il faut qu'il y ait la kdoucha qui vienne, la sainteté qui vienne. La haine gratuite dont on parle maintenant, la concurrence, la jalousie. Toutes ces choses-là, ce sont des pulsions animales. Il est impossible de les contrôler si tu n'as pas un accompagnement de Dieu. Dieu est le seul qui peut arriver à affiner ces choses-là. Donc, il est nécessaire d'avoir étude de Torah, Shabbat, prière. Tu me diras, il y a des gens qui ne font pas ça, ils sont relativement bien. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a des personnes qui sont nées avec des bons traits de caractère, d'autres avec des mauvais traits de caractère. Mais il est clair qu'avec Dieu, ça marche toujours mieux que sans Dieu. Donc lui aussi pourrait monter beaucoup plus haut, à partir du niveau qu'il a eu, s'il est accompagné par Dieu. Maintenant, ce n'est pas suffisant, simplement, je fais Shabbat, je mange kasher, etc. Il faut, une fois que j'ai maintenant, on va dire, le bagage de lumière, de sainteté avec moi, il faut aussi maintenant un travail. Un travail de compréhension, un travail sur soi, au niveau de tous ces mauvais traits de caractère. Et si le sujet dont tu as parlé, si tu veux qu'on parle ce soir, peu de temps qu'il nous reste, c'est la haine gratuite, il y a un travail à faire, de savoir que, d'abord il faut définir pourquoi j'ai la haine. Essayer d'arriver en nous, comme une concurrence, il faut travailler maintenant sur le niveau de la concurrence, la jalousie, savoir que personne ne me vole rien, et je ne suis pas en concurrence avec lui. Il faut bien comprendre, Dieu gère le monde. Et personne au monde ne peut me faire concurrence. Personne. Si lui, il réussit plus que moi dans un domaine, c'est parce que Dieu lui a donné plus. Et si moi, Dieu m'a donné moins, je ne vais pas le jalouser. Parce que Dieu me donne ce que j'ai besoin pour mon propre travail. Mon but de la vie, c'est me réaliser moi. Moi, avec ce qu'on me donne. Je ne suis pas en concurrence avec l'autre. Il n'y a pas une course entre lui et moi. Le but, c'est rapprocher de Dieu. Je reçois de Dieu exactement les meilleures choses au monde pour me rapprocher de lui. Ce que lui a reçu m'est beaucoup moins bon à moi pour me rapprocher de Dieu. Et si moi, maintenant, je veux recevoir ce que lui a reçu pour me rapprocher, soi-disant me rapprocher de Dieu, je m'éloigne de Dieu parce que Dieu ne s'est pas trompé. Il m'a donné à moi les outils pour me rapprocher de lui. Si je prends les outils de l'autre, c'est certain que ce n'est pas aussi bien. Donc la jalousie, c'est un panneau. Idiot. Bête. Mais la partie animale, elle existe. C'est quand même dur de voir l'autre qui a réussi mieux en face de moi. Très très dur. Il y a deux personnes à la yeshiva. Je vois les deux, je rentre dans une chambre, je vois les deux maintenant en train d'étudier. Écoutez, tiens, J'ai un gâteau ici que ma femme vient de cuisiner pour faire pour les barouets et chivotes, pour un des barouets. Tiens, je donne un. Et je pars. La réaction de l'autre qui peut avoir du gosse de 3 ans.
Pourquoi lui et pas moi?
Alors, c'était un peu de... Tu te retiens. Mais non, quand même, enfin, qu'est-ce qu'il fait à Rav Shaya? Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi lui et pas moi? En dessous de gâteau. Maintenant, si c'est pas un gâteau, c'est... Tu en es maintenant à ton 20e shidour. Et t'as toujours pas trouvé. Et un nouveau venu qui vient d'arriver à la yeshiva. Clac, clac. Un shidour. Tac, il se fiance, machin.
Pourquoi lui et pas moi?
Ça fait 3 ans que tu es à la yeshiva au même shiur, numéro 2. Il y a un qui arrive, un mois il fait un shiur 1, deuxième mois shiur 2, troisième mois shiur 3. Ça fait 3 ans que tu es là au shiur 2 et lui en 3 ans passé au shiur 3.
Pourquoi lui et pas moi?
Etc, etc. Tous les cas de figure que vous pouvez imaginer de jalousie. Comprends. Personne ne te vole rien. Ce que tu as reçu, c'est le meilleur au monde de tous les anges, toutes les créatures que Dieu a pu te donner, le top niveau pour que tu te rapproches de Dieu. Et l'autre, il a reçu les outils pour que lui se rapproche de Dieu avec son job. C'est pas le shiur dans lequel tu es. C'est pas le shidour que tu as reçu ou pas. C'est pas le morceau de gâteau que tu as reçu ou pas qui va changer, qui montre ton niveau. C'est pas ça. Ton niveau, c'est à quel point tu fais ton job. Ton job. Or, tu sais pas quel est ton job. Une chose est certaine, ce que tu as reçu comme outil, c'est le meilleur pour faire ton job. Donc tu n'as pas été jaloux d'absolument personne. Une chose qui peut réveiller la haine, c'est que tu vois devant toi un type qui a un comportement intolérable. Moi, j'aurais jamais fait ça. Sauf tous les mots, tous les problèmes de Schlumbeit dans un couple. Ou nous, en face de quelqu'un qui a un comportement avec nous qu'on trouve intolérable, et donc ça crée chez nous les nerfs, parce qu'on ne peut pas supporter une chose pareille. C'est quoi? C'est un raisonnement tordu qu'on a. C'est que je me projette dans l'autre, et je dis, moi, jamais j'aurais fait ça. Je peux supporter un certain seuil de, comment on appelle cela, de type tordu. Il est tordu un peu. Quelqu'un fait une chose qui est vraiment intolérable. Il rentre dans la chambre à 2h du matin, tout le monde qui dort. Il allume la lumière. Il allume la radio. Il prend sa douche. Et il s'essuie avec ma serviette. Qu'il la jette par terre après dans la douche. Et moi, je regarde mon lit comme ça avec un œil ouvert. Alors, le coup déjà à la lumière, déjà, bon, le Rav Shaïvan dit, restons calmes, je reste calme. La radio, c'est intolérable. Ma douche, ma serviette, et après, il la jette dans la boue comme ça, par terre. Il faut que je lui fasse une leçon. Soi-disant. Ça, c'est... Il faut que je fasse une leçon, ça, c'est... L'argument. Il y a toujours un argument soi-disant intelligent quand on a les nerfs qui montent. Tu ne vas pas crier bêtement, tu vas dire quelque chose. Alors, l'argument intelligent, mais derrière, il y a un bœuf, un taureau, d'accord, qui fulmine avec les narines comme ça en feu. Il est vrai qu'il faut lui faire une leçon, mais pas dans cet état que tu es maintenant. Ce n'est pas une leçon. Ça, c'est aller le ratatiner en petits morceaux. Il est vrai qu'il y a un comportement qui est intolérable. Mais d'après quels critères? D'après tes critères à toi? Toi, étant éduqué, dans une société normale, il y a des choses qu'on ne fait pas. Les gens dorment, tu les déranges. C'est un manque de respect primaire. Tu allumes en plus la radio, ça va. Tu n'es pas seul dans ta chambre. Tu voles ma serviette et après tu la laisses comme ça. Et c'est moi qui dois faire la lessive. C'est un manque de respect. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis prêt à supporter un certain manque de respect. Parce que moi aussi, je ne suis pas parfait. Mais quand ça dépasse les bornes, ça ne va plus. Qui fixe les bornes? Moi. Moi, dans une situation pareille, j'aurais jamais fait une chose pareille. Je peux être dingue, je peux être sous, je peux être stone, d'accord, mais il y a un certain point que je ne dépasse pas. Donc ton critère, regardez comment le raisonnement il est faux. Ton critère de dire que l'autre dépasse les bornes, c'est comment toi tu aurais fait. Dans un couple, c'est terrible. Parce que je projette toujours sur l'autre, jamais j'aurais fait une chose pareille. Jamais j'aurais fait, moi. Un coup, parce qu'on est toujours en confrontation, mais dans n'importe quelle société, jamais j'aurais fait un truc pareil. Donc, il mérite que je ratatine en petits morceaux. C'est faux. Lui, et toi, c'est toi. Et on est différents. Regarde. Je change maintenant une donnée de l'exemple que j'ai donné. Le type qui rentre à 2h du matin, tout ça, il met la radio, par exemple. Lui, c'est un retardé mental. Il a l'âge psychologique de 2 ans et demi. Tu le sais. Et toi, tu es son éducateur spécialisé. Et il rentre à 2h30, il allume la lumière, il met la radio, et il ne se rend pas compte de ce qu'il fait, parce qu'il a l'âge de 2 ans et demi. Tu vas lui crier dessus? Non, c'est un malade. Et là, tourne dans l'ordre. Tu as réussi à faire une dissociation. Lui n'est pas normal, donc sur lui ne s'applique pas les critères que moi je considère comme normal, parce que moi j'aurais jamais fait ça, mais moi je suis pas lui, parce que lui c'est un retardé mental, et moi pas. Et là tu acceptes, ça t'enquiquine, mais t'as pas tous les nerfs qui te montent, avec l'argumentation, moi j'aurais jamais fait ça. Maintenant, pour un type qui est normal, c'est la même argumentation, il n'est pas normal. Pour un mec qui fait une chose pareille. La normalité qui est pour toi n'est pas la normalité de l'autre. On n'est pas les mêmes personnes. On n'est pas un homme, n'est pas une femme n'est pas un homme. Chacun est né avec son background. Preuve en est qu'il est comme ça. Donc il y a une normalité. Il est coupable parce qu'il aurait dû travailler. C'est pas ton affaire. C'est pas ton job. C'est pas ton job. Lui, il fait son boulot. Tu peux, en tant que frère, en tant que bon juif qui veut l'aider, un jour, aller de façon très calme et gentille, avec un sourire et de côté, lui expliquer, tu sais, ça vaut la peine, quand tu rentres dans une chambre, à 2h du matin, de faire attention aux gens qui... Lui expliquer, lui faire un cours dans ce sens-là, mais pas avec tous les nerfs. Et comme tu l'aurais fait à n'importe qui, n'importe quelle autre personne, qui aurait fait cela à un autre, pas à toi. Simplement par le devoir d'aider les gens qui ne comprennent pas les choses, en tant qu'enseignement. Je ne dis pas que moi, si on me fait le coup, genre, c'est tranquillement dans mon lit, et, d'accord. C'est parce que je vais aussi réagir. Peut-être sur place, me lever et lui dire, écoute, à cette heure-ci, tu n'utilises pas ma serviette, tu n'allumes pas le panel, et dodo, voilà. Il faut lui mettre des limites. Il se peut. Sans nerfs. Sans les nerfs, c'est faux. D'accord. Pour préserver que je puisse, moi, maintenant, dormir normalement pour être demain un type normal. Je ne dis pas que je dois recevoir les coups et me taire. Je peux m'empêcher de donner les coups. Je peux m'empêcher de recevoir les coups. J'ai le droit de me protéger, mais pas commencer à voir le corriger avec les nerfs. Le corriger très calmement plus tard, sans haine, ce type-là, c'est un type qui a un problème, c'est tout. Tous les tordus de la Terre ont des problèmes. C'est pour ça qu'ils sont tordus. Maintenant, Chazal parle d'une chose qui est encore plus haute. Il parle de haine gratuite. C'est quoi gratuit? C'est aucune bonne raison de le haïr, ce type-là. Je suis ni jaloux de lui, ni en concurrence. Simplement, je le vois... Je ne sais pas pourquoi, j'ai une antipathie innée. Hein? Alors le secret, effectivement, nous ne sommes pas tous du même shoresh, on n'est pas tous de la même racine d'âme. Chacun a des racines d'âme, a des signes astrologiques, provient d'un autre. Et des fois, il y a des choses qui ne marchent pas ensemble. Les atomes ne sont pas crochus, ça existe. Le truc, la réalité qui nous permet de l'aimer aussi, c'est comprendre très profondément cette notion profondément juive qui est que nous sommes à la base un seul corps. Chaque juif a le nefesh, c'est l'âme qui le fait vivre. Ce nefesh est un corps spirituel à une âme plus fine qu'il habite qui s'appelle le ruach. Le ruach est un corps spirituel pour une âme plus fine qu'il habite qui s'appelle la neshama. Neshama est un corps spirituel pour une âme plus fine qu'il habite qui s'appelle la chaya. Et la chaya est un corps spirituel pour une âme plus fine qu'il habite qui s'appelle la yechida. Yechida, elle est entièrement divine, et comme son nom l'indique, yechida signifie unique. Elle est unique à tous les juifs, depuis le premier juif Avraham Avinu jusqu'au dernier juif de l'histoire. C'est marqué dans la Torah, dans la vie, Adam Atem, vous êtes homme. Les autres peuples sont appelés Béné Adam, fils de l'homme. C'est tous des fils du premier homme, des fils de Adam, Béné Adam, des fils de Adam, de Adam. Nous, on est Adam. Toutes nos âmes proviennent du corps spirituel du premier homme. Nous sommes tous des parties de l'âme du premier homme. Nous sommes un. Si tu veux attendre, il y a une chose qui est très puissante dans le peuple juif, c'est l'amour que les juifs ont entre eux. C'est vrai qu'on fait une grande zizanie quand on est ensemble, on n'est jamais d'accord, on dit deux juifs, c'est trois avis. Mais à la base, le peuple juif est foncièrement amoureux du peuple juif. Comme dit Chazal, à quoi ressemble le peuple juif? Un tas de noix. Tu enlèves une noix, tout dégringole. Un juif disparaît, tout le monde ressent. Qu'il y a un attentat, une chose pareille, tu as des chaînes de Tehilim dans le monde entier. La Shoah, il n'y a pas un juif qui pense au moins une fois par semaine, au minimum. Puis dans un bouquin qu'il y a quelques centaines d'années, il y a 10 juifs qui ont été brûlés dans une ville parce qu'ils étaient juifs, ça fait un petit quelque chose. Et pourquoi? Il y a quelques siècles, tu ne les connais pas, c'est pas ta famille. Pourquoi? Pourquoi ça te touche? Parce que dans ton âme très profonde, vous êtes un. C'est une partie de toi. C'est une partie de toi. Ça s'appelle Ahavat Israël. L'amour d'Israël. C'est une chose qui est très haute et très grande et très pure. Il faut accéder à cela. Il faut prier pour cela. Il faut prier pour le peuple d'Israël. Il faut aimer le peuple d'Israël. Quand on aime le peuple d'Israël, on aime Dieu. Quand on aime Dieu, ça marche ensemble. Plus quelqu'un se rapproche de son âme juive, de cette yachida, il va aimer chacun des juifs. Alors, Ben Sirna Bachaoul, il avait une très grande puissance de faire des brachot. Il disait, lui voyait tout, c'était un homme qui avait Ruach HaKodesh. Il disait, vous savez, voir, c'est relativement facile. Mais faire une bracha et changer le dessin de quelqu'un, ça c'est beaucoup plus difficile. Arriver à changer. Dans le ciel, c'est marqué, tac, lui il va, il change. Non, autrement. C'est une puissance énorme. Un jour, j'ai des brachot comme ça à des juifs. et il y avait le marchand de légumes du coin. Je connaissais bien l'arabe. Il disait, quoi l'arabe, moi aussi j'aimerais faire comme vous. Comme ça, des brachot et ça marche. Réalisé dans les yeux, lui a dit, aime chaque juif comme moi je les aime, tu pourras faire comme moi exactement. C'est une puissance énorme. C'est-à-dire que tu te mets à un niveau divin. Quand quelqu'un il comprend que tous les juifs, c'est une partie, et il aime le peuple. Et combien de gens simples juifs aiment les juifs d'un amour extraordinaire? Nous tous. Donc, quand il va renforcer ça chez toi, tu vois que lui, bon, misken, qu'est-ce qu'on peut faire? La nature n'a pas gâté, il est tordu, il n'a pas une belle tête, tout ça. Mais c'est un de nos frères. Si maintenant on était dans les camps, et tu peux le sauver, qu'est-ce que tu ne ferais pas pour le sauver? Il a une tête affreuse maintenant, mais tu l'aimes dans les camps, tu l'aimes, non? Vous êtes retrouvé maintenant, tu sais quand ça arrive ça? Quand tu es paumé dans un pays, tu es au Chili, et tu le vois lui, le copain de la yeshiva que tu ne peux pas supporter. Tu le rencontres dans un train, dans une gare comme ça. Et il prend le même train que toi. Mais tu es heureux de le rencontrer. Pourquoi tu es tellement heureux de le rencontrer? C'est un type que tu connais. C'est un frère. Tu es au Groenland. T'as rien des pingouins à côté de toi. Tu le vois lui maintenant parmi les pingouins. On a un amour. On doit avoir cet amour très grand dans la Israël.
C'est quelque chose qui est...
Alors, la pulsion animale, elle est là. Tu as un animal en toi qui a la haine de l'autre. À nous de prendre maintenant la pulsion divine, la descendre, et qu'elle jugule l'animal. La pulsion, la réaction, elle est normale. Quand quelqu'un se met en colère, il y a une réaction de se retenir, mais la pulsion coléreuse, elle vient. La pulsion de jalousie, elle vient. Je vais dire, mais non, arrête de dire, il y a deux personnes en moi. Ma personne intelligente doit dire à ma personne idiote, c'est quoi? C'est mon sentiment primaire, animal, qui vient, l'imagination, il m'en veut, il va me prendre, j'aime pas. Non, c'est pas droit, c'est pas juste ce que je dis. C'est un raisonnement qui est faux. Nous sommes sans cesse assaillis par des raisonnements de notre imagination qui sont complètement faux, des films. Et si on fait pas attention, alors on est envahi par cela et on vit le film. Et on vit dans le mensonge, pas dans la réalité. Il faut vite corriger. Non, c'est faux, parce que ce n'est pas la réalité de Dieu. Dieu, il dit que je dois l'aimer, donc je l'aime.
Est-ce que ce que vous me dites, ça veut dire à force de me calmer, alors je ne ressentirai plus déjà à la base?
Je dis qu'en nous, chacun en nous, dans le cas que tu parles maintenant, je vois quelqu'un, je ne l'aime pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un résultat de la partie animale qui est en moi. Comment elle agit? Elle agit avec des images, avec des pensées, avec l'imagination, un sentiment qui vient en moi. Ce sentiment, il n'est pas juste. Il ne vient pas d'un neshama, il vient de l'animal. L'animal, il se trompe toujours. Moi, qui ai aussi une partie qui est juste, qui est la neshama divine, je dois dire, cette pensée animale est fausse. C'est du film, c'est n'importe quoi, parce que je l'aime, c'est mon frère. J'ai parti de l'âme Israël. C'est une partie divine de Dieu. J'aime Dieu, je l'aime. Et idem pour tous les cas de figure dans la vie, où on se met en colère, où on est jaloux, ou n'importe quoi. Dans la vie, on a sans cesse des sentiments négatifs qui proviennent de notre côté animal. On doit savoir que c'est un menteur, l'animal. Il me vend des films qui sont faux. Et si je me laisse convaincre par ce film-là, je ne suis plus dans la réalité, je suis dans n'importe quoi. Je suis à côté de la plaque, je suis jaloux, mais t'es pas dans... C'est marqué, il y a trois choses qui sortent la personne du monde. La jalousie, l'envie, et la recherche de kavod, d'honneur. C'est le sort du monde. De quel monde? De mon monde, de moi-même. Je ne suis plus moi-même. Je veux dire quoi? Je vis un film qui n'est pas le mien. Quelqu'un, il se prend pour Zorro. Il entre ici à la Shiva, quand il marche en couloir, il fait tagada, tagada, tagada. Toute la journée, il est comme ça. D'accord? Il se met le matin, il met son masque, il se prend pour Zorro toute la journée. Qu'est-ce que tu dis? Il est à côté de la plage. Ben, quelqu'un qui est jaloux, c'est pas plus différent que ça. Un jaloux, c'est il se prend pour Zorro. Tarzan, il se prend pour Tarzan. C'est un jaloux. Il faut se dire que chaque fois que tu vois un type jaloux, coléreux, qui a la haine, tous ces mauvais traits de caractère, il y en a beaucoup, chaque fois qu'il y a un sentiment où la personne, elle vit cela, elle est en train de jouer un film, elle se prend pour le personnage. C'est ça le danger. Au moins qu'on dise, ah tiens voilà, ma maladie qui m'a repris. J'ai une psychose, je me prends pour Zorro. J'ai une psychose, je suis jaloux. J'ai une psychose, j'ai la haine. J'ai une psychose, je suis en colère. Bon, c'est ma psychose, j'essaye lentement de la réfréner. Mais c'est une maladie psychiatrique grave que j'ai. Et je dois, avec ma tête, me raisonner, me dire, mais non, c'est des bêtises que je suis en train de dire. Quelqu'un qui est schizophrène, il a tout à coup une pulsion, une bouffée délirante, d'accord? Que lui dit son esprit doit lui dire, non, calme-toi, c'est faux, c'est n'importe quoi. Il sent deux personnes en lui, une qui lui dit, non, c'est vrai, on me fait du mal, il est parano, je sais pas ce que tu veux. La personne raisonnable lui dit, mais non, c'est des bêtises. Nous, on a exactement ça aussi. On a deux personnes, on est tous schizophrènes. Partie animale, partie divine. La partie divine doit juguler, doit expliquer à moi, sache, ta partie animale, elle te raconte n'importe quoi. Tu es possédé par un menteur. Baruch Adonai, l'homme va amener.